Drainville PM. La voie est libre.
C'est-à-dire que le public ne saura jamais pourquoi, pour ce qui est d'enquête de justesse en tant que telle, ce sera au comité de surveillance de l'UPAC de déterminer, jusqu'à certains points, quelle information pourrait être communiquée. Maintenant, moi, mon devoir, effectivement, c'est un devoir de confidentialité, puis je vais m'en tenir à ça.
Voici Luc Lavoie.
Alors, vous venez d'entendre Frédéric Gaudreau, donc le patron de l'UPAC, qui a présenté son rapport annuel ce matin. Et, enfin, ce matin ou en début d'après-midi.
C'est tout à l'heure, là, s'il y a à peu près une demi-heure.
Oui, et donc, il a ce que vous venez d'entendre, dans le fond, c'est que vous ne le saurez pas pourquoi il a décidé de mettre fin à l'enquête justesse là, qui portait donc sur des malversations alléguées à la Société immobilière du Québec qui aurait profité à des anciens collecteurs de fonds du Parti libéral, là, Fava et compagnie. Alors, on ne le saura pas, à moins, dit-il, que le comité de surveillance de l'UPAC décide de rendre public certaines informations. Ça n'arrivera pas, ça non plus.
Mais ce qui est intéressant ce matin, c'est qu'il a dit qu'après un examen exhaustif de tous les dossiers qui n'est pas terminé, dit-il, le corps policier a mis fin à d'autres enquêtes, mais il refuse de dire lesquelles. Mais quand même, il tient à mentionner que l'enquête mâchurée sur l'homme d'affaires Marc Bibeau et l'ex-premier ministre Jean Charest, cette enquête-là serait toujours en cours, d'après ses propos.
Oui.
Alors, on n'en sait pas beaucoup plus, à part le fait qu'il a beaucoup insisté sur la question de la discrétion, l'incapacité pour des enquêteurs de travailler quand il y a des fuites un peu partout.
Ce qui est une de tes marottes.
Ben, c'est pas seulement une de mes marottes, c'est une réalité.
Non, mais tu as beaucoup insisté, marotte, c'est vrai que c'est un caractère péjoratif, mais tu as beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait que les fuites cessent parce que ça nuisait ultimement, pas juste à la justice, mais aussi au travail des policiers.
Les deux en même temps, puis ça fait en sorte que des procès n'auront peut-être pas lieu, qui auraient dû avoir lieu, ou d'autres vont tomber et qui n'auraient pas dû tomber. Et c'est pas normal.
Non, c'est pas normal. Puis on se rend compte, ça nous a fait plaisir peut-être par moment de voir ces reportages-là là, qui s'appuyaient sur toutes sortes de fuites policières. Mais on s'est rendu compte avec le recul, Luc, que ça nous a probablement nui plus que ça nous a aidé. Parce que on avait une petite jouissance de voir qu'il courait après certains personnages politiques qu'on souhaitait.
Il faut arrêter de prendre ses rêves pour des réalités. Il faut que la police.
Pour lesquels, laisse-moi finir ma phrase, pour lesquels on avait certaines suspicions. Et on se disait, ah ah, les policiers court après, ça va finir par des arrestations, puis des procès, puis ils vont aller en dedans, les méchants.
Puis là, dès le moment qu'il y a une enquête qui tombait ou une cause devant une cour qui tombait, elle disait « Ah ah, il doit y avoir un libéral caché quelque part derrière les rideaux qui tire les ficelles de l'affaire. »
Oui, puis là, on se rend compte que les mêmes libéraux, pour certains d'entre eux, n'auront pas de procès à cause, justement, des fuites.
Et voilà.
Et voilà ce que ça donne. Voilà, exactement. OK, parlons un peu de télévision, parce qu'on s'est en allé à la pause en disant aux auditeurs...
Ça fait longtemps qu'on voit venir le phénomène, Bernard, mais je pense qu'on est au point de bascule. Les gens... Écoute, j'ai trouvé comme toi le chiffre assez incroyable. C'est que cette média, on lit ça dans un article de la presse aujourd'hui de Marc-André Lemieux.
Un journal, oui. Journal de Montréal, pardon, pas de problème.
42% des codes d'écoute des 20 émissions les plus regardées depuis septembre proviennent des enregistrements. Il s'agit d'une augmentation de 40% par rapport à l'automne 2018.
On écoute de moins en moins de télévision en direct, surtout le soir.
Ouais, et ça a des
conséquences
énormes pour ce qu'on appelle les téléviseurs généralistes. À Montréal, il y en a trois des téléviseurs généralistes. T'as V, là, qui est pas mal marginal par rapport aux autres. T'as Radio-Canada puis TVA. Puis après, t'as des chaînes spécialisées.
Mais t'as Télé-Québec aussi, là, quand même.
Non, Télé-Québec tombe dans les chaînes spécialisées. C'est pas la même chose. Non.
Télé-Québec, c'est une chaîne généraliste.
Excuse-moi, ça n'en est pas une. Selon la réglementation du CRTC, ça n'en est pas une.
Vraiment?
Vraiment. C'est pas une station généraliste.
Ah bon? Alors, tu me l'apprends.
Bon, voilà.
Parce qu'ils font plus de. Moi, je pense qu'ils font plus de parts de marché que V. Télé-Québec?
C'est fort possible. Mais
ça semble, veut... je dis ça, ben, là, j'ai pas vérifié.
Là-dessus, RDS fait des plus grosses parts de marché que V.
OK, là. Mais Télé-Québec, c'est pas considéré comme une télévision généraliste.
Non,
okay,
c'est
bon,
pas
mais
une
alors,
télévision généraliste.
Très bien, alors?
Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le modèle avec lequel on vit depuis qu'on est au monde, là, depuis que la télévision existe, une station généraliste, ça commence le matin avec des émissions Et puis ça s'enchaîne, puis il y a des émissions d'information, puis après il y a des émissions pour les mères au foyer, puis après il y a des émissions en après-midi pour les gens qui veulent se détendre en écoutant. Mm-hmm. Puis le soir, on essaie de jouer à la locomotive, on a les nouvelles à 18h, puis ça
enchaîne. Les grosses séries, là.
Les grosses séries, puis tout ça.
Bon.
Mais ça, ce modèle-là, il tient plus parce que les gens ont décidé de prendre le contrôle. Les téléspectateurs ont à leur disposition les outils qui leur permettent de prendre complètement le contrôle. D'abord, les enregistreurs numériques sont tellement rendus conviviaux que c'est dur de ne pas savoir comment l'utiliser. Deuxièmement, les Netflix, Club Illico, Crave, Disney Plus qui vient d'être lancé aujourd'hui.
HBO,
Apple TV qui vient d'être lancé.
Amazon.
Ouais. Alors, ça veut dire ça que, et les gens y prennent goût, on fait, l'expression est née de là, le binge-watching. Au lieu d'aller regarder son émission chaque semaine à 20h, faut être libre à la maison, c'est notre émission, tu en regardes 12 de suite pendant le week-end.
Ben, on a tout fait ça, hein?
On a tout fait ça, mais là, on arrive
c'est
au point.
C'est fun! Tu t'installes, hein? Luc, tu commences le matin, tu te colles sur ta blonde, puis tu te dis, aujourd'hui, on se tape une série,
on
écoute 10 d'affilée, puis on... Hey, écoute, c'est le fun, là!
Alors, ça a aussi des conséquences pour tout le système de télédiffusion. Par exemple, les câblos distributeurs, dont Vidéotron, qui fait face à la même chose que les autres au Canada et en Amérique du Nord. Vidéotron fait face à un phénomène qu'on appelle le cord cutting. Ça, ce sont des gens qui disent « j'en veux plus de câbles. Vous allez me donner votre accès Internet le plus rapide qui est disponible, mais je veux plus de câbles. »
Donc, je vais payer pour l'accès Internet, mais je paye plus pour le câble.
Parce que, par l'Internet, franchement, il n'y a pas grand-chose que tu n'es pas capable de voir.
Ben, c'est ça.
N'importe quel sport, n'importe où sur la planète, tu peux l'avoir. Les séries, évidemment.
Ben oui.
Tu peux aussi avoir des nouvelles. Alors,
qu'est-ce que tu es en train de nous dire, là?
Je suis en train de te dire que TVA, tel que ça existe, ça va changer du tout au tout. Je ne sais pas comment ils vont s'en remettre.
TVA, Vidéotron, tu me parles du câble.
Ben, Vidéotron, eux autres, ce que ça veut dire dans leur cas, c'est qu'une chance qu'ils ont été vers la téléphonie mobile il y a à peu près 10 ans,
ouais.
Parce que là, ils seraient dans le gros trouble.
Ouais.
Parce que le cord cutting, c'est pas marginal.
Cord, c'est
pas 2%.
Comme dans la corde, le câble.
Le câble.
Je coupe le câble.
Oui, mais dans leur jargon, même ici à Montréal, ils appellent ça du cord cutting.
D'accord.
Alors, je coupe mon câble, mais là, on ne parle pas de 2%, 3%. On est rendu dans le 25-30%. La jeunesse, là, je regarde ma fille là, qui vient d'avoir un enfant et qui a aménagé avec l'homme de sa vie. Eux autres, ça leur traverse même pas l'esprit d'avoir le câble. Ils ont une grosse télé, là, puis ils mettent Netflix, puis ils mettent tout ça, puis ils mettent l'accès Internet, puis ça finit là. Alors, on va traverser une réelle crise parce que tout l'édifice de financement de la production de télévision, qui repose justement sur les redevances venues des distributeurs que sont les compagnies de câbles et les compagnies de satellites.
Ah oui, oui. L'ancien
ça baisse, des... ça baisse.
Ça s'appelait le Fonds des câbles, là. Je pense que ça s'appelle le Fonds canadien des médias, je pense.
Le Fonds canadien des médias, en effet.
C'est ça.
Lui, là, ses recettes qui n'arrêtent pas de diminuer.
Ah oui.
Alors, puis en plus, on est dans un terrain où c'est très, très dangereux parce que quand tu vois rentrer Disney, Amazon, on les a nommés tantôt, Apple, Netflix, tout ce que tu veux, comment veux-tu compétitionner ça? Puis eux autres, en plus, ces grands-là du monde entier, des Américains essentiellement, arrivent, puis ils vont acheter quelques productions en français au Québec. T'sais. Ils se donnent un petit visage québécois, mais fondamentalement, ce sont des distributeurs de produits internationaux.
Mais il va falloir
une chance qu'il y a des clubs illico, puis qu'il y a du tout TV, puis tout TV extra.
Ouais.
Parce que je veux dire, éventuellement...
Mais il va falloir qu'ils se regroupent. Moi, je te le dis, là, Luc, je comprends là, que c'est pas dans la philosophie de Québécois là, de faire des partenariats. Là. Mais je vais te dire, un jour, là, si on veut qu'une production francophone continue d'exister, il va falloir que la production francophone s'unisse plutôt que de se diviser en plusieurs plateformes.
Je te
le dis, là, on ne viendra pas à bout, Luc, là, de tenir tête à Netflix, à Disney, à HBO, à Amazon et à tous les autres.
Qui vont naître.
Qui vont naître ou qui naissent déjà.
Oui.
Tu sais, si nous autres, avec notre petit marché de quoi, 6, 7 millions de francophones, si on continue à s'entretuer entre réseaux ou médias concurrents, tu sais ce que je veux dire,
oui, complètement.
Tu sais, la guerre entre Radio-Canada et Québécois, à un moment donné, il va falloir que ça finisse. Il va falloir qu'ils voient leur intérêt à s'unir pour offrir aux francophones des productions dans leur langue. Sinon, ça va être fall ball, mon vieux.
À l'heure actuelle, déjà, les budgets alloués aux productions du Québec sont inférieurs de beaucoup par rapport à il y a 5-6 ans.
Mais là.
Alors, personne ne veut prendre le taureau par les cornes. En fait, on voudrait prendre le taureau par les cornes qu'on ne saurait pas exactement quoi faire.
Mais à un moment donné, c'est à ça que ça sert un visionnaire.
Ouais. Club illico.
Un dirigeant qui a de la vision, là, qu'à un moment donné,
ouais,
là.
Ouais, hein? Il faudrait.
Ça
en prendrait, là. Puis je ne dis pas qu'il n'y en a pas, là, mais à l'heure actuelle, on est dans une zone où c'est très, très, très dangereux sur le plan culturel pour le Québec francophone.
Alors,
de voir ça se passer sous nos yeux.
Alors, j'ai 27 ans, me dit un auditeur. Je suis en appartement depuis 8 ans. Je n'ai jamais payé un sou noir pour un service de câble ou distribution. Bon, il y en a qui se plaignent que le câble coûte trop cher,
parce que
etc.
C'est pas,
etc. Ouais.
Puis Bernard, il y a aussi le fait là, que...
Pas de pub, me dit un autre. Pas de pub. Quand c'est sûr, quand tu vas sur une, par exemple sur Netflix...
Que tu payes une mensualité,
payes
c'est tout.
Ben voilà, tu payes pour ton abonnement.
Puis eux autres, leur marché est mondial. Ils ont comme à peu près un milliard d'abonnés. Ils sont à 800-900 millions Netflix, je pense. Imagine!
Non, c'est incroyable.
Alors,
c'est des machines.
Alors, il va falloir qu'on se prépare à ça. Puis il y a d'autres choses, transformation, bouleversement dans ce milieu-là qui sont en train de se produire. Par exemple, les jeunes, ils prennent plus ça des lignes à la maison, des lignes filaires de téléphone.
Non, non, c'est fini, ça.
C'est fini, ça. Mais écoute, ben, c'était beaucoup avant. C'était comme ça que Bell Canada vivait.
Ben oui, je
sais. Vidéotron avait fait une percée. Il y avait plus d'un million d'abonnés dans ce domaine-là. Ça recule constamment.
Ah, c'est bye-bye.
Alors, une chance qu'ils ont la mobilité, puis l'avenir, il y a bien du monde. En tout cas, celui qui connaîtrait la solution, il viendrait riche pas mal vite.
Oui, c'est ça l'affaire. Mais c'est à suivre. C'est à suivre parce que c'est toute notre. En partie notre culture qui se joue à travers ça.
Absolument.
Le sort de notre culture, l'avenir de notre culture. Luc, tu veux nous parler de Venise.
Oui.
Venise qui actuellement est inondée par c'est historique.
C'est la plus grande inondation depuis qu'on les mesure en 1926.
Alors, petite réflexion sur Venise.
Oui,
c'est pas désagréable, Venise. T'es allé à Venise,
ben,
toi?
Oui, bon, toi aussi.
Parlons de Venise un petit peu après la pause.